Il y a tellement d'infos que je m'y perds.
Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même.
Souvent, je trouve que tout est trop superficiel.
Je pense qu'il y a trop d'infos et...
C'est très angoissant.
La première...
J'ai besoin de repères.
Les clés...
J'ai envie de comprendre.
Arnaud Reussen.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés pour un épisode qui va nous emmener en Hongrie où la dérive autoritaire du Premier ministre d'extrême droite Viktor Orban inquiète de plus en plus en Europe avec de récentes lois pour interdire certaines manifestations et criminaliser la protestation, des projets de loi pour empêcher l'action de certaines ONG critiques du pouvoir. Le pays semble s'éloigner de plus en plus de la démocratie et de l'état de droit. Alors jusqu'où ira Viktor Orban? Quelle réaction possible aussi pour l'Union européenne? C'est ce que l'on va creuser dans ce numéro des clés.
La première, les clés.
Samedi 12 avril, le soleil brille, le ciel est bleu, et pourtant dans le centre de Budapest, c'est le gris qui est à l'honneur. Quelques 10 000 personnes sont rassemblés dans la capitale hongroise pour une « Grey Pride », une marche des fiertés grises, pourrait-on traduire. Les drapeaux arc-en-ciel sont devenus des dégradés en nuances de gris. Les costumes et les maquillages sont gris, eux aussi. Notamment le visage de deux jeunes filles maquillées en clown triste et qui expliquent les raisons de ce rassemblement.
Regardez tous ces gens habillés en gris. Une parfaite démonstration de ce à quoi ressemble l'uniformité. Est-ce que c'est vraiment ça que nous voulons? Nous, on ne veut pas que tout le monde soit pareil. Et maintenant qu'ils essayent d'interdire la marche des fiertés et de modifier la loi sur les rassemblements publics, c'est notre façon de protester.
En ligne de mire de ces manifestants, une récente évolution de la loi qui pourrait empêcher la tenue de la Pride de Budapest prévue le 28 juin prochain. Mais faisons un petit rétroacte d'abord pour comprendre comment les droits des personnes LGBTQIA+ reculent au fil du temps en Hongrie. Un premier jalon important est sans doute la réforme constitutionnelle de 2011, qui a fait prendre à la constitution hongroise un tournant très conservateur. Le texte y définit notamment le fait que le mariage doit être l'union volontaire entre un homme et une femme, ce qui exclut de fait toute reconnaissance de l'union entre personnes du même sexe. En 2020, une réforme a aussi interdit le changement de genre à l'état civil. En 2021, une loi dite de protection de l'enfance a aussi été adoptée, une loi qui interdit notamment, et je cite, « la promotion de l'homosexualité ou de la transidentité auprès des mineurs ». Et c'est d'ailleurs cette loi qui est invoquée dans un autre texte législatif tout récent portant sur la liberté de réunion, et qui permet désormais d'interdire tout rassemblement jugé contraire au développement moral des mineurs. Alors, vu ces évolutions législatives, la Pride de Budapest pourra-t-elle finalement avoir lieu? C'est possible. Le maire de Budapest a d'ailleurs dit qu'il comptait l'autoriser. Mais en vertu de cette nouvelle loi, les participants à la Pride pourraient être identifiés par des logiciels de reconnaissance faciale et se voir infliger dans la foulée de lourdes amendes. Un instrument de plus de restriction des droits et des libertés dans un pays de l'Union européenne, une évolution inquiétante, dénoncée notamment par cette jeune manifestante devant le Parlement hongrois.
Je pense que la Hongrie a déjà franchi la ligne, qu'elle quitte la démocratie pour aller vers l'autocratie.
Et avec nous pour en parler, Florence Labruyère. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Budapest. Alors j'ai envie de vous faire réagir tout d'abord à cette dernière phrase qu'on vient d'entendre d'une manifestante devant le Parlement hongrois à Budapest. Est-ce qu'elle a raison ? pour vous de dire que la Hongrie est en train aujourd'hui de basculer dans l'autocratie?
Oui, je crois que les risques sont réels. Je crois que cette jeune manifestante comprend bien ce qui se passe. L'un des grands dissidents polonais, Adam Michnik, disait il y a quelques années, Viktor Orban est en train de réaliser un coup d'État, mais c'est un coup d'État très progressif, c'est un coup d'État à petits pas. Et c'est effectivement ce qu'a fait Viktor Orban toutes ces dernières années. Et là, ça devient encore plus visible avec une loi qui n'a pas encore été votée, mais qui sera votée la semaine prochaine. Une loi qui va rendre très, très difficile le travail des médias indépendants, des ONG, mais qui peut aussi empêcher les entrepreneurs ou les parents d'exprimer leur opinion. Avec cette loi, Viktor Orban, en fait, ne prend plus de gants, en fait. Il ne se cache même plus de vouloir réprimer toute opposition.
Donc, ce qui est en train d'évoluer, selon vous, Florence Labrouillère, c'est que là où on était dans un régime qui, progressivement, quand même, avait compliqué de plus en plus le travail normal d'une démocratie, parce qu'il y avait de moins en moins de médias indépendants, parce que l'opposition se voyait mettre des bâtons dans les roues, parce que Viktor Orban prenait une série de lois liberticides dont on vient de parler. Ici, on va carrément un cran plus loin avec l'idée de pouvoir verrouiller le pouvoir, empêcher l'opposition de pouvoir, à un moment donné, reprendre le pouvoir, comme ça peut se faire normalement dans le jeu d'une démocratie.
Oui, alors il y a plusieurs choses qui sont en jeu. Il y a tout d'abord, pour répondre à vos questions, il y a tout d'abord le fait des élections, du système électoral. Et est-ce que les élections actuellement en Hongrie sont vraiment totalement démocratiques et transparentes? Je crois qu'elles ne le sont plus, déjà depuis plusieurs années. Mais comme les sondages, depuis plusieurs mois, donnent pour la première fois le parti de Viktor Orban derrière un autre parti, c'est-à-dire que pour la première fois, Viktor Orban est devancé dans les sondages, eh bien le Premier ministre se dit « ça ne suffit pas de manipuler les élections, il faut que je fasse autre chose ». C'est pour ça qu'il a prévu cette loi qui s'appelle une loi sur la transparence publique et qui doit être votée la semaine prochaine. Si vous voulez bien, je peux résumer en quelques phrases ce que dit cette loi. Elle donne la possibilité à un nouveau bureau de la protection de la souveraineté d'établir une liste noire des ONG, des médias ou de toute autre organisation, y compris des entreprises. Et le bureau mettrait ces différentes organisations sur une liste noire. Pour quelles raisons? Tout simplement parce que ces organisations enfreignent la souveraineté nationale. C'est aussi vague que ça. Donc ce bureau a toute possibilité, en fait, de mettre ces organisations sur une liste noire pour n'importe quelle raison. Ensuite, que se passe-t-il? Le bureau donne l'ordre aux banques de geler les comptes bancaires de ces organisations qui reçoivent des fonds étrangers. Alors, il y a beaucoup de médias et d'ONG qui reçoivent, par exemple, des fonds de l'Union européenne. Beaucoup de médias peuvent participer à des concours, des appels d'offres, et ils reçoivent, par exemple, pour une période d'un an, une aide de la Commission européenne pour faire fonctionner, pour rénover leur site web ou pour mieux faire fonctionner leurs médias. Donc ces organisations seraient considérées comme des criminels tout simplement parce qu'elles reçoivent des fonds européens. Si les banques refusent de geler ces comptes bancaires, les banques elles-mêmes peuvent être soumises à de lourdes amendes. Et ensuite, les banques doivent faire part de leur action au bureau du fisc, au service des impôts. Et c'est là qu'intervient ce service des impôts qui, déjà depuis plusieurs années, est utilisé par Viktor Orban pour punir ses opposants. Le service des impôts peut envoyer des inspecteurs dans les bureaux des organisations visées, saisir tous leurs ordinateurs, saisir tous leurs documents. Il peut également procéder à des enquêtes sur les comptes personnels des dirigeants de ces organisations. Donc, vous voyez que là, on entre vraiment dans un tout nouveau domaine qui fait que c'est un petit peu ce qui fait dire à certains historiens qu'on retourne vers le communisme. Sous le communisme, le pouvoir faisait taire ses opposants en disant « toute activité contre-révolutionnaire sera punie ». Personne ne savait exactement ce que c'était qu'une activité contre-révolutionnaire, mais bon, tout le monde se taisait. Il s'agit là de même de faire peur à la population, non pas parce qu'elle a fait quelque chose de répréhensible, non pas parce qu'elle a fait elle a commis un acte criminel, mais de lui faire peur parce que, en ouvrant la bouche, la population s'expose à une rétorsion de l'État.
Et on se sert, vous l'expliquez, hein, Florence Labruyère, de cet argument de la souveraineté nationale pour pouvoir alors mener des actions au fond arbitraires que le pouvoir entend pouvoir mener pour préserver justement son pouvoir. C'est ça en fait qui est en jeu là-dedans. L'argument de la souveraineté nationale, il sert de moyen en fait un contrôle arbitraire de la population d'un pouvoir qui veut absolument se maintenir. C'est comme ça qu'on pourrait résumer les choses ?
Oui, tout à fait. Aussi en invoquant le fait que la Hongrie est actuellement menacée par des forces étrangères. C'est ce qu'invoque le pouvoir et c'est ce que dit presque tous les jours le Premier ministre. Et en ce moment, alors, les forces étrangères, ça évolue au cours du temps. Le Premier ministre, il y a quelques années, était parti en guerre contre le financier américain George Soros, qui était accusé de vouloir faire venir des millions de migrants en Hongrie. Ensuite, ça a été le FMI, ensuite ça a été la banque, les banques, et aujourd'hui, le grand coupable, c'est l'Ukraine, en fait. Ça peut paraître étonnant, mais c'est comme ça. Le Premier ministre Viktor Orban a choisi l'Ukraine comme cible, et l'opposition, les partis d'opposition, sont accusés d'être instrumentalisés par l'Ukraine. Tout se passe comme si, finalement, l'Ukraine était l'ennemi numéro un de l'Union européenne et de la Hongrie, et pas du tout un pays qui a été victime d'une attaque par l'armée russe. Voilà le narratif du Premier ministre hongrois. Et comme il contrôle son parti, contrôle 80% du paysage médiatique, finalement, ce narratif fonctionne auprès d'une grande partie de la population. Je m'en rends compte quand je parle, quand je rencontre les gens dans la rue. Les gens ont vraiment peur que l'Union européenne entraîne la Hongrie dans la guerre. Les Hongrois ont également peur que les Hongrois soient forcés d'aller se battre. Pour l'instant, il n'y en est pas question, mais le gouvernement de Viktor Orban fait croire à sa population, la désinforme, en lui disant « mais l'Union européenne veut que nous allions nous battre ». Donc, le Premier ministre a réussi à convaincre une partie de la population, seulement, je pense, le noyau dur de ses électeurs, qu'il y a vraiment un ennemi très dangereux à l'extérieur, que cet ennemi instrumentalise l'opposition et que Viktor Orban est le seul à pouvoir sauver les Hongrois.
Voilà donc pour le narratif, et c'est important de bien le comprendre avec vous, ce qui se joue là aujourd'hui en Hongrie. Avec nous en studio, il y a aussi Luca Tomini, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, vous êtes chercheur au FNRS, professeur à l'ULB en sciences politiques, et vous intéressez particulièrement à ces régimes qui glissent vers l'autoritarisme, justement. Quand on entend ce qui vient d'être expliqué là, hein, ces dérives progressives, à petits pas, cette idée de l'ennemi et extérieur et intérieur, au nom duquel on pourrait prendre des pouvoirs arbitraires pour contrôler la population, l'opposition, les médias, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, la Hongrie est encore une démocratie ou elle a déjà basculé dans tout à fait autre chose ?
Ben, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. En fait, aujourd'hui, on ne peut pas qualifier la Hongrie comme une démocratie. C'est tout à fait un autoritarisme. Alors, pour être clair, il faut penser que les autoritarismes aujourd'hui ne sont pas les autoritarismes du XXe siècle. Donc, il ne faut pas penser à l'Allemagne naziste ou à l'Italie fasciste. Et il ne faut pas non plus penser à la Corée du Nord, pour parler d'un pays contemporain. Donc, c'est une forme différents d'autoritarisme, mais si vous regardez ce qui se passe concrètement en Hongrie, vous avez la presse qui est contrôlée par le gouvernement, les médias sont soit contrôlés par le gouvernement, soit contrôlés par des oligarques qui sont proches à Fidesz, le parti de Viktor Orban. Vous avez la justice qui est contrôlée par le gouvernement, donc il n'y a pas d'indépendance de la justice. Et vous avez une série de lois qui limitent la liberté de réunion. Alors, clairement, on peut penser, certains peuvent penser ne pas être concernés parce que, voilà, ils font pas partie d'une minorité, ils ont pas une orientation sexuelle. Mais en fait, la limitation des libertés concerne tout le monde. Donc, une fois que les libertés, comme la liberté de réunion, est limitée, ça va concerner tout le monde. Et donc, l'aspect principal aujourd'hui en Hongrie, c'est qu'il y a toute une série de mesures de changement constitutionnel, législatives qui font que c'est extrêmement difficile pour l'opposition de remporter les élections. ou déjà d'avoir une chance de remporter les élections. Et c'est l'élément qui nous fait dire qu'aujourd'hui, la Hongrie est un régime autoritaire. Un régime autoritaire, d'une certaine mesure, compétitif, parce qu'au niveau local, il peut y avoir, par exemple, l'opposition qui remporte les élections à Budapest. Ça, c'est tout à fait possible. Mais au niveau national, c'est toute une autre histoire. Et donc, quand vous avez un pays dans lequel il y a des manipulations électorales, il y a une possibilité réduite pour les partis d'opposition de vraiment remporter les élections, alors tout ça, ensemble, nous fait dire que, oui, bien évidemment, il s'agit d'un régime autoritaire. Aujourd'hui,
un régime autoritaire.
Dans le corps de l'Europe.
Une autocratie compétitive, disent ouais. Parfois certains aussi à propos de la Turquie. On est en train de se rapprocher de ça. C'est-à-dire, il y a quand même encore des élections, il y a quand même encore une opposition. Vous l'avez dit, au niveau de scrutins locaux, municipaux, ouais. Il peut y avoir encore des victoires de l'élection. Mais au fond, la liberté se limite à cela. On a un pouvoir qui tient suffisamment de rênes en main pour pouvoir s'assurer de se maintenir au pouvoir, quitte à aller un cran ou deux plus loin encore dans l'autoritarisme, si jamais il devait être menacé de perdre le pouvoir.
Exactement, et ça c'est le risque en fait des régimes autoritaires compétitifs. Le risque c'est qu'ils ne sont pas stables en fait. Donc c'est pas une forme stable de régime politique. Et c'est pour ça qu'en Hongrie aujourd'hui on est vraiment dans un tournant historique, on l'a évoqué avant. Le parti d'opposition Tisza est donné en tête dans les sondages. Il y aura des élections en 2026. L'économie, il y a des problèmes économiques en Hongrie aujourd'hui. Donc le pouvoir de Fidesz, le pouvoir d'Orban, pour la première fois probablement depuis 2010, est menacé, vraiment menacé. Et donc il y a deux options. Soit on va vers une victoire aux élections de l'opposition, et donc un processus très lent, souvent pénible de redémocratisation, soit... Ce qu'on a dit avant, le risque, c'est d'aller vers des modèles encore plus autoritaires. Et je pense notamment, si on voit les lois adoptées en Hongrie aujourd'hui, c'est le modèle russe qui l'importe. Donc c'est un régime dans lequel il n'y a même pas des libertés d'expression, il n'y a même pas des libertés de réunion, même pas des libertés d'association. Donc le risque, c'est d'aller vers cette direction-là.
Alors la question évidemment qui peut se poser, c'est... Que peut faire l'Union européenne aujourd'hui face à cela, en voyant un de ses membres qui est en train d'évoluer dans cette direction? On sait qu'une série d'États, dont la Belgique d'ailleurs, se sont déjà plusieurs fois inquiétés, que des procédures ont été mises en place au niveau européen pour sanctionner la Hongrie de Viktor Orban. Et on va peut-être, avant d'en parler, résumer avec Sarah Pousset quels sont les moyens d'action de l'Union européenne face à une dérive comme celle que l'on vient d'écrire en Hongrie.
Le trident de l'Union européenne contre un État membre problématique, ce sont les sanctions politiques, économiques et judiciaires. D'abord, d'un point de vue politique, l'exclusion totale d'un État membre ne figure pas dans les traités. Ce n'est pas une option. En revanche, l'article 7 du traité sur l'Union européenne prévoit de suspendre le droit de vote d'un État membre au Conseil de l'Union européenne s'il ne respecte pas certaines valeurs fondamentales. C'est donc une sanction assez forte puisque l'État ne peut plus prendre part aux décisions européennes, mais il doit quand même les appliquer. Et ça, c'est un processus que 2/3 des députés européens ont choisi d'entamer en 2018 contre la Hongrie. Mais en 7 ans, rien n'a bougé. La balle est dans le camp du Conseil de l'Union européenne, qui a reçu la Hongrie en audience, mais qui n'a toujours pas effectivement statué sur le risque de violation de l'état de droit. Or, la semaine dernière, une lettre signée par 20 États membres, dont la Belgique, encourage justement à prendre des mesures concrètes, comme l'explique la ministre suédoise des Affaires de l'Union européenne.
Nous constatons une répression contre la société civile, et avec comme dernier exemple en date, l'interdiction des marches des fiertés. 7 ans se sont écoulés, 7 audiences ont eu lieu, et je tiens à dire clairement aujourd'hui que cette situation ne peut perdurer sans une attitude radicalement nouvelle de la part du camp hongrois. Je pense qu'il est temps d'envisager les prochaines étapes, car la poursuite de ces audiences devient vaine.
Le problème, c'est que pour que cette procédure aboutisse vraiment, il faut qu'elle soit votée à l'unanimité au Conseil européen. Or, Viktor Orban a plusieurs amis sur qui compter, notamment le dirigeant slovaque Robert Fico ou Giorgia Meloni en Italie. L'Europe a donc plutôt lancé des sanctions économiques contre la Hongrie en adoptant un mécanisme qui conditionne les fonds européens au respect de l'état de droit. Et pour l'instant, 18 milliards d'euros destinés à Budapest sont gelés. Enfin, le gouvernement de Viktor Orban a aussi été traîné à plusieurs reprises devant la Cour de justice de l'Union européenne pour non-respect du droit ou des traités européens, notamment en matière d'atteinte aux droits des personnes LGBTQIA+ et des demandeurs d'asile. L'État hongrois a d'ailleurs été condamné l'année dernière à 200 millions d'euros d'amende plus des astreintes jusqu'à ce qu'il se conforme aux droits d'asile européens.
Voilà donc pour un petit résumé de ce qui est possible et de ce qui se joue quand même déjà aujourd'hui dans des mesures de sanctions à l'égard de la Hongrie. Florence Labrouillère, comment est-ce que c'est vécu ça en Hongrie par les dirigeants, en particulier du côté de Viktor Orban? Est-ce qu'on craint cette escalade possible des sanctions européennes, ou bien est-ce qu'au contraire on s'en sert pour un discours que l'on sait aussi très critique vis-à-vis de l'Union européenne aujourd'hui en Hongrie?
Oui, c'est plutôt la deuxième option qui est valable. Viktor Orban et son gouvernement, dès que l'Union européenne bouge ou fait une déclaration contre lui, il s'en sert. Mais je voudrais juste préciser quelque chose, c'est très difficile pour nous, journalistes étrangers, et même pour les journalistes hongrois, d'avoir accès aux membres du gouvernement. Ils ne donnent pas d'interview. Donc on est obligé de reprendre leur communiqué. D'autre part, je voulais dire que le gouvernement hongrois n'a pas du tout peur de l'Union européenne, parce que la Commission et les différentes institutions réagissent toujours avec beaucoup de retard. Les mécanismes sont très lents. Et aujourd'hui, la seule chose qui pourrait peut-être sauver toute cette société civile, c'est que la Commission demande à la Cour de justice européenne de se prononcer sur une mesure d'urgence qui serait une suspension de l'activité de ce bureau de la protection de la souveraineté. Rien que cette mesure prendrait déjà plusieurs mois, mais ce serait la mesure la plus rapide, parce que s'il faut attendre que la Commission lance encore une procédure d'infraction, on en a encore pour plusieurs années.
Lucas Tomini, on est à un moment de bascule important, on l'a compris, notamment avec cette loi qui arrive pour la Hongrie, un moment aussi important au fond pour l'Union européenne, de voir jusqu'à quel point elle est ferme sur ses valeurs, jusqu'à quel point elle peut aller sanctionner un de ses États membres qui basculerait vers un autoritarisme, voire une autocratie vraiment totale. C'est un moment charnière important pour les Européens de manière générale, ce qui se passe
clair.
Là.
C'est clair. Et je pense que la question principale, c'est avant de penser ce que l'Union européenne peut faire, c'est pourquoi ça nous concerne en fait en tant que citoyen européen. Parce que il y a plusieurs réponses. Je parle même pas de la réponse qui concerne les valeurs. Avoir un régime autoritaire parmi les pays européens, c'est déjà un souci. Mais il y a des raisons bien plus concrètes. Si vous n'avez pas une magistrature indépendante, une justice indépendante dans le pays, et vous êtes par exemple une entreprise belge qui veut s'installer en Hongrie, ben c'est un souci, parce que vous n'aurez pas une justice indépendante qui vous protège. Si vous êtes un citoyen européen qui va vivre ou travailler en Hongrie, vous aurez des soucis. C'est aussi quelque chose qui concerne l'argent dans nos poches en tant que citoyen européen, parce qu'il y a de l'argent qui va, avec les fonds européens, qui va à financer en fait Fidesz, le parti de Viktor Orban, et qui gère les financements européens sans aucune transparence. Donc ça nous concerne pour beaucoup de raisons. Après, qu'est-ce que l'Union européenne peut faire? Il y a des limites à son action. L'article 7, malheureusement, et je le dis clairement, ça ne marche pas, parce qu'il faut l'unanimité, donc ce n'est pas quelque chose qui est faisable. Ce qui marche très bien, c'est les sanctions financières. Donc, avoir une conditionnalité liée à l'état de droit, au respect de la justice, l'indépendance de la justice, pour obtenir les fonds européens, ça marche très bien. Encore une fois, il faut surtout se rappeler que les problèmes de démocratie de la Hongrie trouvent une solution à l'intérieur du pays. Alors c'est vraiment un problème de la démocratie hongroise qui va trouver une solution à l'intérieur de la politique et de la société hongroise. Alors nous, en tant que citoyens européens ou l'Union européenne, peut faire quelque chose, mais la solution se trouve en Hongrie et se trouve dans la politique hongroise.
L'enjeu, c'est d'aider quelque part ceux qui veulent faire vivre la démocratie hongroise aujourd'hui.
Exactement.
À pouvoir la faire vivre ou survivre, peut-être même faudrait-il dire là maintenant. Et ça, justement, Florence Labrouillère, pour terminer là-dessus, est-ce que aujourd'hui, vous sentez, vous encore, dans les contacts que vous pouvez avoir avec la société civile, avec les opposants, qu'il y a encore une mobilisation forte, qu'elle est encore possible, qu'elle peut encore s'organiser, justement, ou bien est-ce que le pouvoir a déjà été suffisamment loin pour casser, justement, toutes ces dynamiques d'organisation de l'opposition et de la société civile dans la Hongrie d'aujourd'hui?
C'est difficile de répondre par oui ou par non. Ce qui est certain, c'est que la bulle d'oxygène qui reste encore, c'est celle des petits médias indépendants. Et on pourrait se dire, ben, s'ils n'ont plus de fonds étrangers, s'ils n'ont plus d'accès à fonds étrangers, ben, ils peuvent peut-être survivre grâce aux dons, aux abonnements des Hongrois, etc. Or, la plupart des médias indépendants peuvent fonctionner parce que chaque citoyen hongrois a la possibilité de donner 1% de ses impôts à des médias ou à des associations. Eh bien, cette possibilité est supprimée par la nouvelle loi qui doit être votée la semaine prochaine. Donc vous voyez bien qu'en se cachant derrière de prétendues forces étrangères, en fait, le pouvoir de Viktor Orban montre bien qu'il veut asphyxier financièrement complètement tous ces médias, puisqu'il refuse même la possibilité hongroise de donner leur argent, s'il le désire, à ces organes médiatiques.
Oui, et là on comprend qu'à la fois on vient couper un éventuel financement étranger et en plus couper un financement direct par les Hongrois de certains médias, ce qui peut tuer à très rapide échéance effectivement ces médias d'opposition qui restent encore. Dernier élément alors avec vous, Florence Labrouillère, est-ce que votre travail alors à vous de correspondante pour des médias étrangers en Hongrie, vous sentez qu'il devient plus compliqué aussi aujourd'hui ?
Il devient plus compliqué, c'est sûr, mais essentiellement parce que nous n'avons pas accès au gouvernement. Nous ne sommes pas du tout, pour l'instant, les journalistes étrangers, nous ne sommes pas du tout en danger. Notre métier est quand même plus facile que dans d'autres régions de la planète. Mais ça devient effectivement extrêmement compliqué d'avoir accès à toutes les sources. Et on a aussi, ça devient de plus en plus difficile d'interviewer des personnes qui acceptent de parler sous leur nom. Beaucoup de gens ont peur et préfèrent s'exprimer de manière anonyme.
La peur comme ingrédient d'un régime autoritaire. On pourrait citer en la matière les travaux d'Anna Arendt qui démontrent comment la peur est souvent un ingrédient clé dans un régime autoritaire, voire totalitaire, où elle n'est pas simplement une réaction émotionnelle, mais un instrument de domination utilisé par le régime pour maintenir son pouvoir comme un moyen d'atomisation et de destruction des liens sociaux qui rend les individus plus vulnérables à l'influence du régime. Voilà, c'était Les Clés, un podcast de La Première, avec à la réalisation sonore Guillaume de Smet, à la préparation Sarah Pousset et Arnaud Reussen. Si vous souhaitez nous écrire, je vous rappelle l'adresse à laquelle vous pouvez le faire, lesclés@rtbf. On essaye de répondre à tous vos commentaires et à toutes vos demandes.